BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Il est midi, bienvenue à tous dans 60 minutes business à la une de l'actualité de ce jeudi. Fini les billets à 10 euros, prévient Ryanair. Manque de personnel, inflation, augmentation des coûts du kérosène. La low cost semble incapable de suivre la demande et tous les prix des billets devraient augmenter. 221 millions d'abonnés pour les plateformes Disney dans la rude bataille que se livrent les plateformes de streaming pour attirer de nouveaux clients. Walt Disney marque un point. Mais la tendance ne devrait pas se poursuivre. Et puis après le manque de gaz et d'électricité, la France risque de manquer d'eau l'hiver prochain. Les barrages sont à leur plus bas niveau. Bien d'autres choses. D'ici midi et demi, on parlera également de la vocation d'enseignants alors que l'enveloppe a été augmentée de 3,6 milliards d'euros. On verra si cela va redonner le goût de l'enseignement aux Français. Bienvenue à tous. C'est une petite révolution qui se joue en ce moment chez Ryanair. La fin des billets à 10 euros, le roi des vols low cost siffle la fin du modèle qui a marqué nos vies depuis le début du siècle. Pierre Kupferman, c'est toute l'industrie des vols low cost qui est bousculée.
On sait que les compagnies low cost ont toujours été très inventives pour tirer les prix des billets vers le bas en réduisant les coûts côté personnel, en attirant les passagers avec des prix cassés tout en les poussant à payer les surplus en tout genre. Mais il y a un élément qui est incompressible, c'est le prix du kérosène.
Le prix du kérosène qui a augmenté ces derniers mois, la hausse du coup a déjà conduit toutes les compagnies à augmenter leurs tarifs.
Tout à fait, et c'est d'autant plus facile pour elles que la demande reste forte. Alors quand on compare les tarifs moyens au départ des aéroports français par rapport à leur niveau de 2019, on est vraiment très au-dessus. Hein. Plus 21% pour les vols intérieurs, plus 11% pour les vols vers l'Europe, plus 18% pour les transatlantiques et plus 40% pour les vols vers l'Asie, ce qui montre d'ailleurs très très bien que la concurrence exercée par les low cost limite la hausse des prix, évidemment en Europe.
Pour lutter contre cette concurrence, justement, qu'elle juge déloyale, les compagnies traditionnelles, elles militent pour un prix plancher.
Oui, c'est une demande qui revient régulièrement. Alors, l'Union nationale des compagnies aériennes françaises propose, par exemple, de ne pas vendre des billets sur les vols intérieurs à moins de 350 euros, aller-retour évidemment, 450 euros pour les vols intra-européens. Bon, vous avez aussi des États qui reprennent cette idée. L'Inde l'a fait pendant la crise Covid, l'Autriche a voulu l'instaurer, le gouvernement allemand y a songé, des parlementaires français l'ont proposé, mais le principe des prix planchers se heurte à une règle que défend l'Union européenne pour garantir la concurrence, c'est la liberté tarifaire. Donc, pour réduire les émissions de CO2 du transport aérien, Bruxelles préfère jouer sur le prix du kérosène, avec d'un côté une taxation progressive et parallèlement une montée en puissance des carburants durables qui, eux, coûtent beaucoup, beaucoup plus cher à produire. Et ça, évidemment, ça va faire grimper le prix des billets et donc empêcher tout retour possible des billets à 10 euros de Ryanair.
La fin d'une ère, merci Pierre Kupferman. On l'entend, augmentation des coûts du kérosène, manque de personnel, reprise très forte du trafic. On a vu les scènes de chaos dans les aéroports au début de l'été et des milliers de voyages annulés. Bonjour Didier Bréchemier.
Bonjour.
Bonjour, senior partner chez Roland Berger. Alors comment est-ce que les compagnies low cost traversent cette période? Est-ce qu'elles ont plus de difficultés que les compagnies traditionnelles?
Alors elles la traversent plutôt bien, comme vous l'avez démontré, avec une demande très forte et donc la capacité de mettre des avions, d'offrir leurs services, et donc elles ont un retour comme beaucoup de compagnies aériennes aujourd'hui sur le marché. Il est vrai, comme vous l'avez aussi évoqué, comme ce sont elles qui progressent aussi le plus, notamment en Europe, qu'elles ont un vrai sujet de personnel, qu'elles ont un sujet de personnel au sol chez leurs sous-traitants, et également en interne, un sujet après avoir, pour certaines d'entre elles, réduit les salaires, eh bien on retrouve un rééquilibrage entre un poids social qui souhaite revenir à un niveau d'avant Covid, d'avant 2019, ce qui semble assez raisonnable.
On a vu des grèves chez Ryanair, chez EasyJet, chez Transavia, des pilotes, des hôtesses, des stewards qui réclament des rémunérations plus généreuses. Est-ce qu'on arrive à la fin d'un modèle économique?
Je ne pense pas. C'est-à-dire que le modèle économique qui est d'utiliser le mieux possible les actifs qu'il possède, à savoir les avions et le personnel, clairement ce modèle est d'ailleurs copié. Hein, quand vous évoquez Transavia, ou en tout cas si ce n'est copié, mise en œuvre par les compagnies traditionnelles, que ce soit Air France ou que ce soit Lufthansa, ce modèle de meilleur coût et augmentation de productivité sur le réseau, on va dire, domestique et européen est la cible. Après, ce qui effectivement n'est pas la fin d'un modèle, mais l'évolution de ce modèle, c'est que les négociations salariales qui avaient eu lieu pendant le Covid, de réduction des salaires de certaines compagnies que vous avez notamment mentionnées, est certainement en fin de course. Et c'est un rééquilibrage qui va avoir lieu et qui est bien naturel entre le pouvoir de l'entreprise et celui de son personnel.
Le trafic a repris de manière particulièrement forte, en particulier en Europe, avec la fin de ces prix à 10 euros les billets de chez Ryanair. Il va continuer à y avoir des offres exceptionnelles comme des allers-retours à Barcelone pour 30 euros, parfois des tarifs moins chers que d'aller au cinéma. Ça va continuer ces prix particulièrement bas?
Ah, il y a effectivement un vrai sujet. Alors, premièrement, c'est un positionnement marketing. C'est-à-dire que le prix à 10 euros, il y a peu de gens qui réussissent à avoir des billets à 10 euros. En moyenne, on est entre moins 20 et moins 40% d'une compagnie, on va dire, traditionnelle. Mais comme, encore une fois, même les compagnies traditionnelles positionnent des modèles économiques comme ceux des low cost, on a, on va dire, un middle cost, eh bien, on se retrouve aussi avec des billets moins chers que les compagnies qui offrent plus de services. Donc, après le positionnement à 10 euros, il commence à choquer les esprits, il commence à atteindre quelque part un comportement que de plus en plus de passagers considèrent devoir faire évoluer pour l'environnement. Et donc, j'ai le sentiment qu'effectivement, le positionnement très agressif à 10 euros va certainement évoluer sur des prix plus élevés. Mais encore une fois, on est sur un positionnement marketing et peu de passagers ont des billets à 10 euros.
Didier Birachmier, on a vu ces scènes de chaos au début d'été dans les aéroports, puisqu'il manquait du personnel au sol, notamment. On a vu des milliers de vols qui ont dû être annulés un peu partout dans le monde. Est-ce que la confusion va se résorber à la rentrée quand la fièvre estivale sera retombée?
Effectivement, les compagnies aériennes ont eu besoin de beaucoup de personnel et peut-être de manière beaucoup plus importante qu'elles ne l'imaginaient. Le retour s'est fait de la demande, s'est fait de manière très rapide. Et la complexité des métiers du transport aérien, c'est des métiers techniques, c'est des métiers qui demandent de la sûreté, de la sécurité, des diplômes, même pour opérer le chargement et le déchargement d'un avion, il y a des spécificités. Et comme beaucoup de ces personnels n'ont pas eu d'emploi pendant de nombreux mois, pour pas dire des années avec le Covid, eh bien ils se sont retournés vers d'autres secteurs d'activité, notamment la logistique. Et donc il est donc nécessaire à la fois de redonner un sens au transport aérien pour réattirer des talents et réattirer ce personnel et surtout de pouvoir les former. C'est pour ça qu'on peut imaginer que pour la fin de l'année, on retrouvera des niveaux de personnel équivalents à ceux d'avant Covid. Ça me semble quelque chose d'assez assuré. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle va être la demande après cette embellie estivale. Est-ce que septembre, octobre, novembre, on a fait des études sur Lamberger récemment sur les impacts liés au Covid, au changement de comportement, notamment des voyageurs à faire. On a des baisses estimées entre moins 20 et moins 30% de la demande, du besoin pour des raisons à faire, par des changements de comportement, des changements de modèle de travail, notamment avec plus de travail par téléconférence. Eh bien, la question reste encore ouverte, bien que les réservations que les compagnies aériennes constatent pour septembre-octobre sont plutôt bonnes.
Merci Didier Brechmier, senior partner chez Roland Berger, d'être intervenu dans 60 minutes business, midi 9, dans 60 minutes business. Justement, d'ailleurs, le premier Boeing 787 Dreamliner a été livré aujourd'hui à la compagnie American Airlines, alors que les livraisons du long courrier étaient totalement suspendues depuis plus d'un an en raison des problèmes opérationnels. Fin juin, le groupe comptait 120 de ses appareils à son inventaire, affirmait produire à un rythme très faible. En tout, 1006 Dreamliner ont été livrés par Boeing depuis les premières commandes en 2004. Ce jeudi, Disney peut sortir le champagne. Pour la première fois, les plateformes du géant du divertissement américain dépassent Netflix en nombre d'abonnés, Sofiane Aklouf.
14 millions d'abonnés supplémentaires pour Disney+, au deuxième trimestre. La plateforme comptabilise désormais 152 millions d'utilisateurs et même 221 millions si l'on agrège les plateformes du groupe, détrônant ainsi son grand rival, Netflix. Grâce à son catalogue de franchises Star Wars et Marvel, Disney inverse la tendance à la baisse des sites de streaming. Netflix, par exemple, a perdu près d'1 million d'abonnés au deuxième trimestre. Mais comme ses concurrents Amazon Prime et Netflix, Disney va augmenter ses tarifs. En décembre, l'abonnement passera de 8 à 11 dollars. Une nouvelle formule, moins chère à 8 dollars, va être lancée avec de la publicité pour attirer encore de nouveaux utilisateurs. En revanche, les perspectives sont plus sombres à long terme. Le nombre d'abonnés devrait stagner. Le géant du divertissement a perdu les droits de diffusion du cricket en Inde, sport le plus suivi dans un pays gros pourvoyeur d'abonnés. Autre ombre au tableau, la plateforme Disney+, lancée en 2019, n'est toujours pas rentable, mais le groupe assure qu'il y parviendra dès 2024.
Des chaleurs suffocantes en France, manque de pluie, des incendies. L'été 2022 est hors norme, tout simplement. Et la sécheresse est telle que les réserves des barrages voient leur niveau chuter drastiquement. Des barrages hydroélectriques essentiels pour notre production en plein contexte de crise énergétique, Mathieu Pechberti.
Après le manque de gaz et d'électricité, la France risque de manquer d'eau l'hiver prochain. Les barrages sont à leur plus bas niveau, plus bas qu'en 1959, année pourtant la plus sèche jamais enregistrée. Ils sont remplis aux deux tiers contre 80% en général en été. Dans les Alpes du Sud, ils sont même à moitié vides. EDF essaye de préserver les barrages et de compenser par d'autres sources d'électricité. Depuis quelques jours, le vent souffle à nouveau et permet aux éoliennes d'alimenter 8% de la consommation. EDF a surtout obtenu de l'autorité de sûreté nucléaire une dérogation pour faire tourner la centrale nucléaire de Bugey à plein régime, alors qu'à cause des températures élevées de l'eau du Rhône, elle aurait dû baisser sa puissance pour préserver la faune et la flore. En août, la consommation d'électricité est faible et il n'y a donc aucun problème d'approvisionnement, mais EDF craint que ce manque d'eau dure jusqu'à l'hiver prochain. Les barrages restent le seul moyen de production qui soit à la fois massif et souple pour passer les vagues de froid. Et ils seront plus que jamais indispensables en cas de pénurie de gaz et d'électricité.
Justement, pour produire de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie revoit à la hausse nos besoins mondiaux en pétrole. La demande devrait augmenter de 380 000 barils par jour à 2 100 000 barils face à la hausse des coûts du gaz dans son dernier rapport mensuel publié ce matin. Avec plusieurs régions comme l'Europe faisant l'expérience de vagues de chaleur brûlantes, les dernières données confirment une utilisation du pétrole pour produire de l'électricité. Note l'Agence internationale de l'énergie. Des chaleurs suffocantes ces derniers jours et ces prochains jours aussi. La quatrième vague est attendue en France avec un pic demain. Combiné à la sécheresse, aux 8 incendies qui ravagent en ce moment la France, de quoi peser lourd sur l'industrie touristique dans le sud-ouest notamment, qui a vu 40% de ses réservations annulées autour du bassin d'Arcachon en juillet selon l'UMI. Le secteur de l'hôtellerie-restauration qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre, pénurie de personnel en prise avec les autres organisations patronales pour savoir s'il faut ou non rehausser les salaires. Laurent Duc estime que ce n'est pas aux organisations de fixer des salaires inamovibles pour la profession, alors que d'autres mettent la pression pour instaurer une augmentation automatique de toutes les restaurations. On l'écoute.
On n'est pas dans un pays totalitaire. Je pense que chaque patron a la capacité d'évaluer ce qu'il va payer son personnel et valoriser le travail de chacun. Si le salaire est une question importante, c'est toujours une question importante, mais parfois c'est pouvoir se déplacer, parfois c'est pouvoir avoir tous ces mercredis, parfois c'est ne pas travailler le samedi matin parce qu'on s'occupe d'une association, etc., etc. Je pense que il faut reprendre l'ensemble de ce que est une offre professionnelle et la relation entre un employé et un employeur, et il n'y a pas que le salaire qui compte.
Après, Laurent Duc, président de l'UMI en France, rehausser les salaires pour faire face à l'inflation qui déborde tous les pays du monde. Hier, un léger soulagement aux États-Unis puisque l'inflation recule 8,5% contre 9,1% le mois dernier sur un an à la faveur de la baisse des coûts de l'énergie. En revanche, cette inflation, elle explose au Royaume-Uni, plus 13% bientôt, un indicateur de cette situation alarmante. 1,3 milliard de livres de factures énergétiques impayées, Laura Cambeau.
Jamais les factures d'électricité impayées n'avaient été aussi importantes au Royaume-Uni. Elles triplent sur un an et ce phénomène risque de se poursuivre. En effet, le régulateur britannique va annoncer un relèvement du plafond des prix de l'énergie. D'environ 2000 livres par an pour un foyer moyen, il pourrait atteindre 4200 livres en janvier. Une facture très salée qui représente la moitié des revenus annuels des retraités moyens. Pour l'instant, le gouvernement se contente de discuter avec les énergéticiens afin de trouver un compromis pour soulager les ménages. Mais les associations de consommateurs l'enjoignent à faire plus et à augmenter les aides. Le chancelier de l'Échiquier a botté en touche. Ce sera au prochain Premier ministre, lorsqu'il prendra ses fonctions début septembre, de trancher sur la question. La candidate à la direction du Parti conservateur Liz Truss refuse d'étendre la taxe temporaire sur les super-profits des énergéticiens. Elle rejette aussi la proposition de son rival Rishi Sunak de convenir d'une aide d'urgence avant l'hiver.
Des résultats ce matin, à commencer par ceux de Siemens, le géant industriel dans le rouge pour la première fois depuis 12 ans. Malgré la forte demande, notamment sur les énergies renouvelables, Siemens affiche une perte nette de 1 660 millions d'euros au troisième trimestre. Un soulagement pour toutes les entreprises dans le monde. Les pressions sur les chaînes d'approvisionnement semblent bien diminuer. Après 18 mois de tempête sur la supply chain mondiale provoquée par la pandémie, le manque d'investissement chronique et des délais de livraison plus court. Désormais, le nombre de cargos, par exemple, en attente pour amarrer au port de Los Angeles a réduit de 75%. Les chefs d'entreprise français, eux aussi, ressentent cette diminution de la pression et soufflent un peu, selon les derniers chiffres de la Banque de France, Caroline Morisseau.
Un léger mieux sur tous les fronts. Les difficultés d'approvisionnement continuent de se tasser pour le troisième mois consécutif. En juillet, 57% des dirigeants jugent que ces difficultés ont pesé sur leur activité. C'est 2 points de moins qu'en juin. C'est particulièrement vrai dans la métallurgie, les équipements électriques ou encore l'automobile. Les tensions restent en revanche très fortes et continuent même d'augmenter dans la pharmacie et sur tous les autres produits industriels. Autre point positif, même si cela ne concerne pas tous les secteurs, c'est moindres difficultés d'approvisionnement commencent à avoir un effet positif sur les prix des matières premières et donc sur les prix de vente. La hausse des prix des matières premières ralentit et moins de chefs d'entreprise ont augmenté leurs prix en juillet. Enfin, les difficultés de recrutement commencent elles aussi à se tasser très légèrement, avec là aussi d'importantes disparités en fonction des secteurs. Ça s'arrange dans le bâtiment et l'industrie. C'est en revanche de plus en plus compliqué dans les services.
La reprise économique reste en revanche menacée par les contextes géopolitiques après la guerre en Ukraine. C'est désormais l'exacerbation des tensions entre la Chine et Taïwan qui pèse sur l'acheminement de puces électroniques, ces semi-conducteurs indispensables à l'aune de la loi voulue par Joe Biden, le président américain, pour développer la production de semi-conducteurs aux États-Unis. La demande a explosé, oui, mais le secteur souffre lui aussi du ralentissement de l'économie mondiale. Plusieurs spécialistes s'attendent même à une chute brutale de la production, Simon Tenenbaum.
Il pourrait s'agir de la pire correction depuis 10 ans pour le secteur des puces, prévient un analyste de Citigroup. Dès le début de l'année, la demande de semi-conducteurs a commencé à ralentir avec l'éloignement de la pandémie et l'inflation. Les ventes de PC, de smartphones ont logiquement montré des signes de faiblesse. Mais le coup de frein est aujourd'hui plus étendu que prévu. Intel, Qualcomm, Nvidia, Micron, tous ces grands fabricants ont abaissé ces derniers jours leurs prévisions. Ils signalent une forte détérioration de la demande depuis le début de l'été, qui s'étend à des segments jusque-là épargnés comme le cloud ou les puces pour l'automobile. Si des pénuries persistent, elles pourraient rapidement se résorber à mesure que les industriels adaptent leurs stocks à la nouvelle donne économique. Paradoxalement, ce coup de frein intervient au moment où les fabricants de puces sont en train d'augmenter massivement leur capacité de production, stimulée par les plans d'aide publique comme le CHIPS Act tout juste promulgué aux États-Unis, ce qui fait craindre d'importantes surcapacités si les prévisions de long terme s'avère finalement trop optimiste.
Il est midi 19 sur BFM Business. C'est l'heure de jeter un œil à la bourse. Etienne Bras, comment se porte la séance à la mi-journée?
C'est particulièrement calme pour l'indice parisien qui stagne autour des 6500 points. 6515 points, c'est une petite baisse de 0,1%. Pour rappel, hier, on a des marchés actions qui étaient en forme après les chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient ressortis meilleurs que prévu. Inflation qui est toujours particulièrement forte, hein, 8,5% au mois de juillet. Mais on a un consensus qui attendait 8,7%. Suite à cela, vous avez des investisseurs qui se sont dit, ça y est, la Fed va être un peu moins agressive que prévu. Elle ne va pas relever ses taux de 75 points de base en septembre, mais de 50 points de base. Et puis, entre-temps, vous avez plusieurs membres de la Fed, dont notamment le président de la Fed de Minneapolis, qui a dit qu'on était très loin de crier victoire par rapport à cette inflation, que rien n'était gagné. Et donc là, tout d'un coup, on a un marché action qui temporise stabilise un petit peu ces chiffres et donc les indices en Europe qui reculent. Wall Street qui est attendu tout à l'heure à 15h30 pour une note plutôt stable. Et puis du côté des valeurs, à souligner quand même le secteur pétrolier qui s'en sort particulièrement bien aujourd'hui avec un baril de pétrole qui repart à la hausse. Donc tout ça, ça profite à Total Energy qui affiche aujourd'hui la plus forte hausse de l'indice parisien avec un gain de 2,2% au-delà des 51 €, puisque vous avez un baril de Brent qui repasse au-delà des 98 $ alors qu'il était à la porte des 90 $ il y a une semaine. Et puis à noter l'autre poids lourd du CAC 40, Sanofi, qui décroche de 8%, titre qui avait déjà perdu 8% hier avec des vendeurs, des pressions vendeuses très importantes sur ce titre. Il ne faut pas oublier qu'en début de semaine, Sanofi avait annoncé l'arrêt des recrutements sur l'un de ses traitements, notamment en ce qui concerne la sclérose en plaques. Et puis vous avez également eu le plan de Joe Biden sur la santé, donc pas mal d'incertitudes sur ce secteur. Et donc Sanofi qui signe la plus forte baisse de l'indice parisien, moins 8%, 80,60 € aujourd'hui. Et donc le CAC 40 en petite baisse, moins 0,1% à la porte de 6500 points, 6515 points.
Merci Étienne Brac. Midi 21. Est-ce que la crise du recrutement des enseignants est liée directement aux rémunérations, alors qu'on annonce une revalorisation du salaire des enseignants pour la rentrée et une augmentation du budget alloué à l'éducation nationale? Est-ce que cela va permettre de redonner du sens à ce métier? La secrétaire générale du SNES FSU, Sophie Venetite, est avec nous dans un instant. On se retrouve juste après ça.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Midi 23 sur BFM Business. Le gouvernement a dévoilé en début de semaine les arbitrages du budget 2022 avec un effort de 3,6 milliards d'euros pour l'éducation nationale, plus 6,3 par rapport à cette année, qui doit notamment permettre de revaloriser les salaires. Bonjour Sophie Venetite.
Bonjour.
Secrétaire général du SNES FSU. Est-ce que la crise du recrutement que connaît aujourd'hui le métier d'enseignement est uniquement liée aux rémunérations?
En tout cas, la crise de recrutement qu'on connaît dans l'éducation nationale, elle est principalement liée à la question des rémunérations. Je rappelle que dans les années 80, un enseignant débutant commençait à 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, il commence à 1,14 fois le SMIC. Donc forcément, on voit que le déclassement salarial pèse très fortement, surtout quand on vient d'être diplômé en mathématiques, en économie. On regarde quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous. Et quand vous comparez les salaires dans le privé et les salaires dans l'éducation nationale, le choix, il est vite fait. Donc très clairement, la raison salariale est une des principales raisons, ce n'est la principale raison de la crise de recrutement que nous connaissons.
Tous les enseignants vont être revalorisés de 10% pour arriver à un salaire minimum de 2 000 € en début de carrière et une hausse qui pourrait grimper de 20% pour ceux qui s'engageraient plus. C'est une méthode que vous approuvez ?
On est loin d'être complètement d'accord avec cette méthode pour plusieurs raisons. D'abord parce que la principale annonce de Gabriel Attal en début de semaine, dans la foulée de ce qu'avait dit Pap Ndiaye ces dernières semaines, c'est d'annoncer finalement des enseignants débutants à 2 000 € net. Ça va dans le bon sens, mais on ne peut pas se contenter d'augmenter uniquement les enseignants en début de carrière. Il faut revaloriser l'ensemble des enseignants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un enseignant qui est à 13, 14, 15 ans de carrière, il gagne déjà 2 000 € net par mois, donc il faut pouvoir revaloriser l'ensemble des enseignants. Je rappelle que si on connaît une crise de recrutement, on connaît aussi une hausse inquiétante des démissions en cours de carrière, donc il faut pouvoir aussi retenir ces enseignants-là et finalement leur donner un signal favorable avec des augmentations de salaire sans contrepartie. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième ligne rouge, hein. C'est quand Emmanuel Macron, tel qu'il l'avait dit pendant sa campagne électorale, conditionnait une partie des augmentations de salaire à des nouvelles missions. Bon, d'abord, je rappelle que nous payer pour des nouvelles missions, c'est pas une revalorisation, c'est tout simplement payer du travail qui est fait. Et par ailleurs, je rappelle aussi que les enseignants ont un temps de travail qui est très important, plus de 42 heures par semaine. Et je ferai aussi remarquer que Pap Ndiaye l'a dit la semaine dernière à l'Assemblée nationale, quand il a été auditionné, il a dit qu'il avait constaté une très grande fatigue chez les enseignants à cause de la crise du Covid, de toutes les réformes. C'est assez paradoxal de se dire que d'un côté, il y a une très grande fatigue et que de l'autre, on va toujours plus alourdir la tâche des enseignants. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on va attirer plus de monde vers nos métiers.
Et alors, cette considération que l'État a pour ses enseignants, est-ce qu'elle a des conséquences sur les résultats des élèves ?
Ce qui est certain, c'est qu'un enseignant revalorisé, un enseignant considéré, c'est un enseignant qui est bien dans son travail, qui est bien aussi dans sa façon de faire tous les jours. Il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi les conditions de travail très concrètes. Hein. Je pense par exemple au nombre d'élèves par classe, mais ça joue aussi, je dirais, sur l'image qu'on peut avoir de la profession dans la société. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a parfois un regard qui est très négatif sur les enseignants. Il y a souvent du prof bashing hein, qui s'exprime. Donc aujourd'hui, il faut reconsidérer le métier d'enseignant, il faut le revaloriser. Ça passe par des actes forts. À un moment, tous les discours qui nous promettent des revalorisations historiques, on les a entendus pendant 5 ans de la part de Jean-Michel Blanquer. Donc on nous annonce une augmentation historique du budget. Maintenant, il faut des actes, il faut des augmentations de salaire, très vite, et pour tout le monde.
Est-ce qu'il faut continuer à recruter avec Bac plus 5? Aujourd'hui, on a vu des opérations de job dating qui ont posé question. Est-ce qu'on doit encore passer par des concours aujourd'hui pour répondre à l'urgence de ces enseignants qui vont peut-être manquer à la rentrée?
Ce qui est certain, c'est que le concours de recrutement à Bac plus 5, c'est une garantie. C'est une garantie incontournable. C'est la garantie que vous avez des enseignants qui ont un niveau Bac plus 5, qui ont un niveau de maîtrise des connaissances qui est attesté, qui est prouvé, parce que c'est quand même eux qui vont se retrouver devant les enfants, devant vos enfants. Donc ça, c'est quand même un élément très important que de savoir qu'il y a une maîtrise de la discipline qu'ils vont enseigner. Donc oui, le concours à Bac plus 5 est un élément incontournable, d'autant plus qu'être recruté à Bac plus 5, c'est aussi l'assurance, par exemple, pendant son master, d'effectuer quelques stages d'observation, voire de mise en pratique, qui permettent de commencer à se familiariser avec ce qu'est le métier. Donc c'est vraiment incontournable. Et à l'inverse, quand on voit les opérations de job dating qui ont été réalisées par certains rectorats, où vous recrutez en quelques minutes des enseignants juste parce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient très motivés pour enseigner, on est quand même très loin de l'exigence de nos métiers, de la qualité de nos métiers. C'est un peu comme si je vous disais que parce que je suis fan d'urgence, de la série Urgence, je vais m'improviser médecin en 30 minutes. C'est pas très sérieux quand on parle de l'éducation nationale et de l'éducation des millions d'élèves de ce pays.
Sophie Vénétité, Emmanuel Macron, déplacement à Marseille, avait parlé de l'école du futur. Qu'est-ce que ça pourrait être selon vous?
Bah déjà, nous, on aimerait bien que Emmanuel Macron et Pape Ndiaye s'occupent de l'école du présent, c'est-à-dire de la prochaine rentrée, de la prochaine année scolaire, avec bien évidemment les questions de revalorisation salariale, mais aussi les questions de moyens. C'est très important, encore plus dans une période post-Covid, où on sait que les inégalités se sont creusées, parce qu'on a eu de l'enseignement à distance, parce qu'on a eu de l'enseignement hybride. Il est important de nous donner les moyens pour faire réussir tous les élèves, pour limiter ces inégalités. Je rappelle par exemple que dans les collèges et les lycées, pendant le premier quinquennat, il y a eu la suppression de 7900 postes d'enseignants. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si on avait rayé de la carte 175 collèges dans ce pays. Donc si on veut avoir de l'ambition pour l'éducation nationale, pour le présent et pour le futur, il faut investir dans l'éducation nationale, il faut créer des moyens, il faut conforter les enseignants dans leur mission et tout simplement leur faire confiance.
3 milliards 600 millions d'euros supplémentaires pour l'éducation nationale, c'est quand même une petite réjouissance, j'imagine, de votre côté?
Bien sûr, un budget en hausse, c'est toujours mieux qu'un budget en baisse. Ça va de soi et ça va mieux en le disant. Maintenant, il faut comparer, il faut regarder à quoi va servir cette somme. Et il faut aussi la comparer à l'ampleur des défis qui sont ceux de l'éducation nationale. Il y a vraiment la question de la revalorisation salariale qui se pose de manière très forte. Et si ces 3 milliards ne servent, entre guillemets, que pour les débuts de carrière, ça aura été un premier pas, mais ça aura été loin d'être suffisant par rapport à l'ampleur des défis. C'est un peu comme si sur un marathon, finalement, on avait couru le premier kilomètre. Là, on a vraiment des défis d'ampleur qui se posent à nous, qui vont nécessiter un investissement très conséquent.
Merci Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, d'être intervenue dans 60 minutes business à la mi-journée, midi et demi pile sur BFM Business. Dans un instant, le rappel des titres et puis les meilleurs moments de BFM Business avec vous. À tout de suite. Midi et demi sur BFM Business, ce 221 millions d'abonnés pour les plateformes Disney dans la rude bataille que se livrent les plateformes de streaming pour attirer de nouveaux clients. Walt Disney a marqué un point ce jeudi, mais la tendance ne devrait pas se poursuivre. Cela dit, il dépasse Netflix en nombre d'abonnés, Sofiane Aklouf.
14 millions d'abonnés supplémentaires pour Disney Plus au deuxième trimestre. La plateforme comptabilise désormais 152 millions d'utilisateurs et même 221 millions si l'on agrège les plateformes du groupe, détrônant ainsi son grand rival, Netflix. Grâce à son catalogue de franchises Star Wars et Marvel, Disney inverse la tendance à la baisse des sites de streaming. Netflix, par exemple, a perdu près d'un million d'abonnés au deuxième trimestre. Mais comme ses concurrents Amazon Prime et Netflix, Disney va augmenter ses tarifs. En décembre, l'abonnement passera de 8 à 11 dollars, Une nouvelle formule, moins chère, à 8 dollars, va être lancée avec de la publicité pour attirer encore de nouveaux utilisateurs. En revanche, les perspectives sont plus sombres à long terme. Le nombre d'abonnés devrait stagner. Le géant du divertissement a perdu les droits de diffusion du cricket en Inde, sport le plus suivi dans un pays gros pourvoyeur d'abonnés. Autre ombre au tableau, la plateforme Disney+, lancée en 2019, n'est toujours pas rentable. Mais le groupe assure qu'il y parviendra dès 2024.
Sécheresse, canicule, la quatrième vague qui doit atteindre son pic demain, incendie, l'été 2022 est hors norme et le manque d'eau peine aujourd'hui sur les barrages qui voient leur niveau chuter dramatiquement. Des barrages hydroélectriques en France, essentiels pour notre production, en plein contexte de crise énergétique, Mathieu Pechberti.
Après le manque de gaz et d'électricité, la France risque de manquer d'eau l'hiver prochain. Les barrages sont à leur plus bas niveau, plus bas qu'en 1959, année pourtant la plus sèche jamais enregistrée. Ils sont remplis aux deux tiers contre 80% en général en été. Dans les Alpes du Sud, ils sont même à moitié vides. EDF essaye de préserver les barrages et de compenser par d'autres sources d'électricité. Depuis quelques jours, le vent souffle à nouveau et permet aux éoliennes d'alimenter 8% de la consommation. EDF a surtout obtenu de l'autorité de sûreté nucléaire une dérogation pour faire tourner la centrale nucléaire de Bugey à plein régime, alors qu'à cause des températures élevées de l'eau du Rhône, elle aurait dû baisser sa puissance pour préserver la faune et la flore. En août, la consommation d'électricité est faible et il n'y a donc aucun problème d'approvisionnement. Mais EDF craint que ce manque d'eau dure jusqu'à l'hiver prochain. Les barrages restent le seul moyen de production qui soit à la fois massif et souple pour passer les vagues de froid. Et ils seront plus que jamais indispensables en cas de pénurie de gaz et d'électricité.
La demande mondiale de pétrole devrait augmenter 380 000 barils par jour en plus à 2 100 000 face à la hausse des coûts du gaz. En tout cas, les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport mensuel publié ce matin, avec plusieurs régions comme l'Europe faisant l'expérience de vagues de chaleur brûlantes. Les dernières données confirment une utilisation du pétrole pour produire de l'électricité, note l'Agence internationale de l'énergie. Il a enfin trouvé un preneur après plusieurs jours d'errance en mer. Le Razoni va finalement débarquer en Turquie avec ses 26 000 tonnes de maïs, parti d'Odessa il y a 10 jours, initialement pour le Liban. Il avait brusquement changé de cap, finalement direction Mézine, où sa cargaison devrait être déchargée. Les déroutages ne sont pas rares dans ce type de transaction. Une première livraison pour Boeing de ses 787 Dreamliner, livré aujourd'hui à l'américain American Airlines, alors que les livraisons de l'appareil long courrier étaient totalement suspendu depuis un an à cause des problèmes opérationnels. Le groupe compte 120 appareils dans son inventaire. Ils ont produit un rythme très faible, assure-t-il. En tout, 1006 Dreamliner ont été livrés depuis les premières commandes en 2004. Et puis un soulagement pour les entreprises. Les pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale sont en train de diminuer selon différents indicateurs provoqués par la pandémie. Cette complication de l'approvisionnement international s'était accrue par la pandémie. Désormais, les délais de livraison sont beaucoup plus courts. À en noter notamment le délai d'attente pour amarrer au port de Los Angeles qui a été réduit de 75%. Midi 35 sur BFM Business, la bourse à la mi-journée. L'indice parisien est dans le rouge, légèrement, moins 0,1% à 6 512 points. Plutôt calme aujourd'hui. Midi 35 sur BFM Business.